Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau Deep Dive. Alors aujourd'hui, on se penche sur une source un peu particulière, une bande dessinée graphique, Sarlat et la Lanterne Interdite.
Oui, une BD assez riche.
Exactement. Et notre mission, c'est d'explorer un peu les idées de cette histoire. Ça suit trois jeunes, Néo, Sarah et puis Lucas, dans la vieille ville de Sarlat.
Et ce qui est intéressant, c'est que Néo et Sarah, ils ont ce que l'auteur appelle une folle du logis.
Ah oui, la folle du logis. C'est une jolie façon de parler de leur imagination, de leur intuition, non?
C'est ça, une sorte d'intuition un peu sauvage, oui. Et c'est sans doute ça qui les rend sensibles à l'appel d'un monument bien précis, la Lanterne des Morts.
Oui, cette fameuse lanterne. C'est pas juste un vieux bâtiment historique dans l'histoire. Néo, lui, il sent qu'il y a un vrai secret là-dessous. Alors que Sarah, au début, elle flippe un peu. Elle a peur d'y être enfermée, une crainte assez viscérale.
Oui, mais ça évolue. La lanterne, en fait, ça se révèle être autre chose. Peut-être un passage.
C'est ça, un passage pour se connecter à l'histoire vivante de Sarlat. C'est un peu l'idée.
Voilà. Et on arrive au cœur du concept de la BD, la lanterne comme une porte des temps.
Une porte des temps, fascinant.
Ben oui. L'idée, ce serait un point fixe, là, à Sarlat, qui permettrait de naviguer entre les époques, de rencontrer peut-être des gens qui ont vécu là bien avant.
D'accord.
La BD fait même une petite référence rapide à un livre qui parlerait d'une porte comme ça à Carcassonne. Donc, peut-être pas une idée unique à Sarlat.
Intéressant. Et du coup, cette idée de porte des temps, ça les lance dans une quête. Ils veulent comprendre.
Ils cherchent des réponses, oui. Notamment un livre qui expliquerait un peu tout ça.
Et ils finissent par trouver un vieux manuscrit. Assez étrange, d'ailleurs. La lanterne de Sarlat y est dessinée en relief. Comme si elle sortait de la page, quoi.
Ah oui, c'est curieux, ça.
Et ce texte, il parle de voyageurs temporels, un peu comme des fantômes. Et d'autres qui errent près de ces portes sans jamais passer. C'est assez mystérieux.
Et j'imagine que tout le monde n'y croit pas, hein.
Non. Lucas, le pragmatique du groupe, lui, il reste sceptique face à tout ça. C'est un peu la tension classique, non? Le rationnel contre l'intuition.
Tout à fait. La source joue beaucoup là-dessus. D'ailleurs, il y a un personnage qui propose une lecture juste symbolique, comme un jeu de tarot, mais avec des portes du temps.
Une manière de rationaliser, quoi.
C'est ça, hein, histoire de dire, tout ça c'est dans la tête. Mais pour Néo et Sarah, l'appel est trop fort. Leur folle du logis leur dit que c'est réel, tu vois.
Je vois. Du coup, ils y vont.
Ils décident d'aller vérifier par eux-mêmes, de nuit, direction la lanterne.
Et là, changement d'ambiance. C'est le moment fort de leur expédition nocturne. Ils sentent qu'ils sont suivis par trois ombres.
Des ombres?
Oui. Et bizarrement, ces ombres leur ressemblent. Et la lanterne, elle brille, étrangement. Presque comme si elle était vivante.
D'accord, ça devient intense.
Mais le plus fou, c'est ce qui se passe derrière eux. La ville de Sarlat, telle qu'ils la connaissent, elle commence à se dissoudre en quelque sorte.
Comment ça?
Mais les rues pavées redeviennent une forêt sombre. La végétation grimpe partout. C'est comme si le présent s'effaçait et qu'un passé sauvage reprenait ses droits. Le temps part en vrille, quoi.
C'est un paradoxe qui est décrit là, en fait. C'est très puissant. Ils avancent vers la lanterne,
oui.
Mais elle semble s'éloigner, devenir inaccessible. Et en même temps, le monde qu'ils connaissent, derrière eux, il part en morceaux.
C'est déroutant.
Complètement. C'est une image assez forte de la quête elle-même, non? Si tu veux trop fort, si tu essaies de contrôler, ça bloque, ça crée une résistance. Ils perdent leurs repères, leur identité commence à flotter un peu. L'idée, c'est qu'on ne peut pas forcer le passage, quoi.
Alors comment ils s'en sortent? Si tout se dérobe?
Eh bien, par une sorte de déclic, une illumination, presque.
Ah.
Ils réalisent que leur erreur, c'est de vouloir comprendre avec la tête, de vouloir obtenir quelque chose de la lanterne.
D'accord. Il faut arrêter de vouloir, c'est ça.
C'est ça.
La clé, c'est le lâcher prise.
Arrêter d'analyser, arrêter de vouloir. Juste vivre le moment présent. Avancer juste avec le cœur. C'est un vrai basculement intérieur.
Et ça marche?
Effet immédiat d'après la BD. Le chaos s'arrête. Le calme revient, et là, le chemin vers la lanterne, il redevient praticable.
Ah, enfin!
Ils avancent et ils arrivent. Mais ils ne trouvent pas une lanterne vide. Ils découvrent un rassemblement.
Un rassemblement?
Oui! La source décrit une foule de gens venant de tous les temps, réunis là pour croiser leur destin. C'est la formule utilisée.
Venant de tous les temps, croiser leur destin. Waouh!
Et là, on leur propose quelque chose... Prendre une carte, un symbole, j'imagine. et raconter leur histoire.
D'accord. Donc, si on résume un peu, le parcours, ça part d'un appel mystérieux, une quête de compréhension qui mène au chaos, à la perte de soi, puis la découverte que c'est l'acceptation, le moment présent, qui ouvre la voie. C'est un sacré voyage initiatique.
Exactement. Et la BD nous laisse là, juste au seuil de ce rassemblement hors du temps.
Frustrant. Enfin, ça ouvre des questions, quoi.
Ah bah oui, ça ouvre une perspective assez vertigineuse pour la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment croiser les destins entre des gens d'époques si différents ?
Bonne question.
Tout ça catalysé par l'intuition et ses cartes symboliques. Et puis, qu'est-ce qui se passe une fois que t'as tiré ta carte, que t'as raconté ton histoire, là, au milieu de tous ces gens ?
La source ouvre la porte.
Mais elle nous dit pas ce qu'il y a derrière. Ça laisse matière à penser, hein.